Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Ils ont eu une vie ensemble, ils ont eu des enfants et ont décidé de se séparer, des histoires de couple plutôt banales. Mais l'histoire se complique si l'un des parents est allemand, car les services de la protection de l'enfance outre-Rhin, le Jugendamt, sont tout puissants et ils privilégient systématiquement la mère ou le père allemand. Des parents français privés de leurs enfants ont donc décidé d'alerter le Parlement européen. Le problème ne date pas d'hier. De nombreuses familles italiennes ou polonaises sont également concernées. Corinne Fugler.
Quand il divorce en Allemagne de son conjoint allemand, le parent étranger doit se lancer dans des démarches kafkaïennes pour continuer à vivre avec ses enfants. Cette jeune Lorraine, Séverine Bright, en a fait l'expérience, invitée à se présenter devant un juge allemand pour ce qu'elle croyait être une séance de conciliation. Séverine s'est vue retirer à l'audience son petit garçon de 6 ans.
Quand je suis partie d'Allemagne, la loi allemande était de mon côté, puisque pour les mamans non mariées, en fait, l'autorité parentale est donnée exclusivement à la maman pour pouvoir la protéger. Lorsqu'ils m'ont enlevé mon enfant, en fait, ils sont aller contre leur propre loi en m'enlevant déjà une partie d'autorité parentale pour donner le droit de garde à mon ex-compagnon.
En effet, le Jugendamt, l'administration en charge des affaires familiales, s'efforce, s'il le peut, de garder les enfants sur le sol allemand.
Dès lors qu'il y a en fait un courrier qui émane d'un tribunal allemand, il faut tout de suite prendre contact avec des associations qui connaissent bien les mécanismes allemands. Moi, si j'avais su à l'époque, je ne serais pas allée à cette audience et je serais encore actuellement en France avec mon enfant.
L'avocat français Grégory Thuan compte dans sa clientèle une vingtaine de parents lésés. Il l'a constaté lui aussi, le Jugendamt ne laisse pas partir les enfants facilement.
Le Jugendamt a un point de vue tout à fait centré sur le territoire allemand. Je pense que la clé, elle est là. Cette institution qui est très proche, finalement, de l'institution judiciaire, qui a beaucoup d'influence sur le juge, elle voit, finalement, le dossier à travers le prisme de l'intérêt de l'État allemand pour que l'enfant se maintienne sur le sol allemand. Le cœur du problème, il est là.
Paul-André Boila est enseignante à Francfort, au lycée français, mais elle vit actuellement dans le Var, sous le coup d'un mandat d'arrêt en Allemagne pour enlèvement d'enfants. Ses filles ont fugué, un geste qui s'est retourné contre leur mère.
Ce qui est bizarre, c'est qu'au moment du divorce, lorsqu'on ose divorcer d'un parent allemand, et ben automatiquement, le Jugendamt et la justice allemande nous font divorcer de nos propres enfants. Moi, je voulais simplement un divorce banal et je me retrouve avec un mandat d'arrêt européen à côté d'un grand meurtrier espagnol et d'un violeur, etc. Moi, je voulais simplement divorcer.
Et l'administration se mêle aussi directement de l'éducation de ses enfants.
Il faut savoir qu'au départ, c'est quand même moi qui ai demandé une procédure d'éloignement parce que cet homme était violent physiquement et psychologiquement. Et au lieu que ce soit cet homme qu'on a écarté pour protéger mes enfants, pour le bien de mes enfants, et ben en fait, c'est moi qu'on a écarté et qu'on essaye d'évincer, de détruire complètement. On essaye en fait, si vous voulez, de détruire le lien avec le parent non allemand, de rompre le lien complètement. Et de la culture française, puisque le Jugendamt avait décidé de retirer mes enfants de l'école française.
L'association française Enfants Otages, créée par des parents d'enfants binationaux, s'est donc tournée vers le Parlement européen pour dénoncer cette entorse aux droits de l'Union. Plusieurs députés, comme la socialiste française Virginie Rosière, ont décidé de rédiger une résolution pour que ces familles soient entendues à Bruxelles. Virginie Rosière préside la commission des pétitions que tout citoyen peut saisir. Elle a déjà reçu 300 pétitions à ce sujet, des plaintes venues de toute l'Europe.
Tous les pays qui sont concernés, évidemment, les pays où la population est nombreuse et qui ont des frontières avec l'Allemagne sont concernés au premier chef, la France en fait partie, la Pologne aussi, l'Italie aussi. Aujourd'hui, ce sont les trois principaux pays identifiés, mais on en a d'autres. Hein. On a vraiment des problèmes qui concernent une grande partie des pays européens.
Les eurodéputés ont demandé aussi les statistiques de l'administration allemande pour évaluer précisément cette préférence nationale. En vain, la Commission européenne, elle, ne réagit pas non plus, déplore Maître Thuan.
Le Parlement est le seul organe de l'Union européenne à prendre les choses au sérieux et je m'en réjouis. Le problème, c'est que la Commission européenne, elle, s'estime totalement incompétente dans ce type de dossier pour la simple et unique raison qu'elle estime que ce type d'affaires familiales est de la compétence des États nationaux et n'est pas de la compétence de l'Union européenne.
Faire bouger Bruxelles, c'est aujourd'hui l'objectif de Virginie Rosière et de ses collègues.
La Commission européenne nous explique en quelque sorte qu'elle s'en lave les mains. Sa responsabilité d'appliquer et de veiller à la bonne application du droit européen et le cas échéant d'amener les États qui ne le font pas correctement à se mettre dans les clous. C'est pour la mettre face à ses responsabilités et l'amener à nous apporter de nouveaux éléments de réponse qu'effectivement la prochaine étape devrait être une résolution.
Il faut reconnaître que la législation européenne a nettement progressé en matière de divorce pour les couples binationaux, mais les règles varient énormément d'un pays à l'autre. Les couples les plus prudents s'entendent maintenant dès le mariage sur la législation qui s'appliquera en cas de divorce.
Et il n'y a pas qu'en Allemagne que la préférence du parent du pays prévaut, c'est également le cas en Norvège. Ainsi, une mère bulgare a été séparée de ses enfants après un divorce, elle en a ensuite perdu la garde. D'autres familles bulgares ont carrément préféré fuir le pays scandinave plutôt que de risquer le même sort. Damien Vodenicharov à Sofia.
Non, il est seul, moi,
des voitures noires, une armée d'inconnus qui peut entrer chez vous n'importe quand et des enfants embarqués sans aucun avertissement. On se croirait dans un polar. Mais en fait, il ne s'agit là que d'une intervention des services sociaux norvégiens. C'est le récit de Svetelina Holland, une Bulgare qui est en train de divorcer de son mari norvégien. Leurs deux enfants ont été emmenés par le Barnevernet. Elle décrit la scène sur le plateau de la chaîne bulgare BTV.
Les services sont arrivés et j'ai dû garder mon calme. En Norvège, si on montre ses émotions, si on tombe dans l'hystérie, ça peut être interprété comme un trouble mental, ce qui voudrait dire qu'on est incapable de s'occuper de son enfant parce que instable d'un point de vue psychologique. J'ai dû faire un effort surhumain pour rester calme, par égard pour mes enfants, mais aussi pour faire bonne impression face à eux.
Ses enfants, Célina, 11 ans, et Andreas, 10 ans, n'ont pas voulu partir pour se retrouver dans des familles d'accueil, raconte encore Svetelina.
Les enfants sont venus me faire un câlin et n'ont pas voulu me lâcher. J'ai dû leur expliquer calmement que tout irait bien. Et tout cela en norvégien parce que les services sociaux nous écoutaient. Les enfants pleuraient, ils s'accrochaient à moi. Ils sont partis parce que je leur ai dit de coopérer et que je me battrais pour eux.
La raison de cette séparation forcée, Svetelina serait trop intelligente et elle pourrait influencer les enfants pendant le divorce. C'est pour cette raison aussi que les enfants ont été placés dans deux familles d'accueil différentes qui habitent à 200 km l'une de l'autre. La grande sœur aurait trop d'influence sur le petit frère et qu'ils n'ont pas vu leur mère depuis avril. L'histoire de Svetelina est loin d'être un cas isolé. Souvent motivé par des simples soupçons et dénonciations des voisins, le Barnevernet n'hésite pas à confisquer les enfants. Les immigrants sont les plus touchés par ces mesures draconiennes. Comme Emilia, une autre Bulgare, séparée de son fils en 2012, alors âgée de 2 ans à peine. Depuis, elle n'a eu droit qu'à 3 visites supervisées d'une durée de 4 heures. D'autres familles bulgares tombées dans le collimateur du Barnevernet ont préféré fuir le pays plutôt que de subir le même sort. En tout, les statistiques officielles norvégiennes font état en 2016 de plus de 54 000 interventions du service de protection de l'enfance, dont près de 16 000 placements en famille d'accueil. En 2017, les parents lésés ont organisé des manifestations à Oslo, mais aussi à Bucarest ou encore à Prague. Dans les cas de couples binationaux ou de familles d'immigrants, les parents font souvent appel aux autorités de leur pays d'origine, comme Svetelina Holland. Mais souvent, la diplomatie reste impuissante face aux services sociaux norvégiens.
Dernier jour de campagne en Turquie, ce dimanche 24 juin, le président Recep Tayyip Erdogan remettra en jeu son pouvoir dans un double scrutin législatif et présidentiel. Avancé de plus de 16 mois, le vote s'annonce crucial pour l'avenir du pays et pourtant l'information des électeurs est un des points noirs de la campagne. Anne Lauer est en ligne avec nous d'Istanbul. Bonjour Anne.
Bonjour Catherine.
Alors Anne, c'est un seul candidat qui occupe quasiment tout l'espace médiatique, j'ai nommé Recep Tayyip Erdogan.
Oui, c'est déjà flagrant lorsqu'on jette un œil chaque jour aux premières pages des quotidiens ou aux bulletins télévisés. Mais cela devient encore plus concret quand on regarde en détail les temps d'antenne accordés à chaque parti qui concourt aux législatives et à chaque candidat à la présidentielle. Deux membres du principal parti d'opposition, le CHP, siégeant au Conseil supérieur de l'audiovisuel turc, ont analysé pendant tout le mois de mai les programmes de 8 chaînes de télévision privées et leurs calculs sont édifiants. Là où le parti du président, l'AKP, a reçu au total 354 heures d'antenne, le CHP n'en a reçu que 79. Le Bon Parti, une formation d'opposition nationaliste, n'a eu droit qu'à 5 heures d'antenne. Quant au parti pro-kurde, le HDP, c'est simple, il n'a pas été cité une seule fois pendant un mois sur ses 8 chaînes privées.
Et qu'en est-il de l'audiovisuel public ?
Eh bien, le constat n'est guère plus reluisant. Selon l'ONG Transparency International, qui a étudié les programmes de la télévision publique TRT du 4 au 31 mai, l'actuel président apparaît beaucoup plus souvent sur le petit écran que tous ses adversaires à la présidentielle. Sur la période étudiée, Recep Tayyip Erdogan a eu droit à 105 minutes d'antenne, contre 37 pour son principal rival du CHP. La candidate du Bon Parti a été vue 14 minutes, 5 minutes pour le candidat du Parti islamiste et 18 secondes pour le candidat du Parti pro-kurde, Selahattin Demirtas, dont il faut dire qu'il est emprisonné depuis 19 mois.
Comment le président turc a-t-il fait pour s'assurer une telle mainmise sur les médias du pays, en particulier les médias privés ?
C'est le résultat d'un long phagocytage des médias turcs par des hommes d'affaires proches du président. Depuis une bonne dizaine d'années, Recep Tayyip Erdogan ordonne, c'est le mot, à des patrons de holding de racheter un à un les grands groupes de médias avec pour objectif d'en faire des médias complaisants. Et ces grands patrons ont intérêt à obtempérer s'ils veulent continuer de remporter les juteux appels d'offres lancés par le gouvernement. Dernier exemple en date, peu avant la convocation des élections, le monde médiatique a été ébranlé par la vente du groupe Doğan, numéro 1 en Turquie, à son rival Demirören, un proche du président. Doğan possédait certains des principaux médias turcs comme le quotidien Hürriyet et la chaîne CNN turque. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des médias d'opposition, ils étaient vus comme des bastions du journalisme indépendant. Une fois la vente approuvée par l'autorité de la concurrence, les conséquences se sont rapidement fait sentir, à la fois chez Hürriyet et CNN Turc, avec le renvoi ou la démission de figures importantes et une couverture plus partielle que jamais de la campagne électorale en cours.
Ignorée par les médias traditionnels, l'opposition redouble de créativité sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas de la candidate de la droite nationaliste, Meral Akşener.
Oui, celle dont le président turc n'a pas une seule fois prononcé le nom a réussi à se faire entendre récemment en usant d'un procédé original, une campagne publicitaire sur Google, au moyen de Google AdWords, sa régie publicitaire. Le principe est simple. Lorsqu'un internaute fait une recherche sur Google à l'aide de certains mots-clés très utilisés, le premier résultat qui s'affiche est un message humoristique redirigeant vers le site du parti de Meral Akşener. Par exemple, lorsqu'un internaute tape « AKP » dans la barre de recherche, le message suivant s'affiche « Désormais, il y a mieux ». Et autre exemple, si l'on tape « Liberté » dans le Google turc, le message publicitaire suivant s'affiche sous la recherche. Pas de résultat trouvé, essayez à nouveau le 25 juin, c'est-à-dire au lendemain des élections.
Anne, ces élections se distinguent aussi par le fait que pour la première fois, un candidat à la présidentielle est emprisonné. Il s'agit du leader du parti pro-kurde, Selahattin Demirtas. Comment fait-il pour être entendu ?
Selahattin Demirtas avait fait sensation à la précédente élection présidentielle en 2014 en arrivant troisième avec presque 10% des voix. Depuis, il est devenu l'un des opposants les plus pugnaces à Recep Tayyip Erdogan et cela lui a coûté cher. Depuis novembre 2016, Selahattin Demirtas s'est maintenu en détention provisoire pour des accusations de terrorisme et il n'a pas été libéré malgré sa candidature à la présidentielle. Là encore, c'est sur les réseaux sociaux qu'il tente de faire campagne. Via ses avocats, il commente l'actualité et répond sur son compte Twitter aux questions des médias qui osent l'interviewer. Il a aussi donné récemment à ses partisans une allocution par téléphone en profitant de l'entretien hebdomadaire avec son épouse autorisé par l'administration pénitentiaire. Pour lui, plus encore que pour tous les autres opposants, les conditions de la campagne sont particulièrement inéquitables, alors même que ces élections sont cruciales. Elles marqueront l'entrée en vigueur du régime hyper-présidentiel adopté par référendum l'an dernier.
Alors on rappelle la date du scrutin, Anne, le 24 juin, et on vous retrouve un vendredi dans un reportage consacré au déçu d'Erdogan. À bientôt, Anne.
À bientôt, Catherine.
Tricher, c'est mal, ça ne marche pas, et vous risqueriez de vous ridiculiser. Merci.
Le fameux papier dans la trousse. Cette technique d'apparence simple peut vite tourner au fiasco. Par exemple, si vous écrivez trop petit.
Mois de juin oblige, des dizaines de milliers de lycéens et d'étudiants planchent pour leur bac ou leurs examens. Et en ce premier jour du baccalauréat, les nouvelles méthodes de triche semblent avoir le vent en poupe auprès des étudiants. Objets connectés, montres ou oreillettes, messagerie instantanée, voire même usurpation d'identité ou piratage de sujets. Dans ce cas, l'imagination est au pouvoir. Un véritable casse-tête en tout cas pour les établissements qui tentent de s'organiser. Le reportage de Perrine Jouan à Paris.
Devant l'université de sciences et médecine Pierre et Marie Curie, les étudiants se pressent vers leur lieu d'examen. À l'entrée de chaque salle, la règle est la même. Éteindre son téléphone portable et le ranger dans son sac. Et ce n'est sans doute pas inutile.
Ah oui, quand même, le téléphone, ça aide. Et le fait que, par exemple, on puisse communiquer avec une autre personne, on va aux toilettes, tchic-tchac, aide-moi. Et ça marche, hein, je pense. Hein.
Même au cours de médecine, on avait interdiction d'avoir des boules-caisses parce qu'ils avaient peur qu'on mette des choses dans les boules-caisses.
Tricher ? Non. Non, parce que moi j'ai tellement peur que non.
Non, je triche pas, non.
Alors moi ça a été de l'écriture sur une règle, la trousse, des choses comme ça. Après je fais du droit, donc on a le code civil, parfois une petite une annotation par-ci par-là. Mais je crois pas que fondamentalement ça change ma note. Hein.
François Guénard est enseignant de mathématiques à l'université d'Orsay. Surveillant d'examen, il a pu observer l'évolution des méthodes de triche qu'il détaille dans son livre « La fabrique des tricheurs ».
Celui qui est connecté à l'extérieur avec quelqu'un qui lui dicte la solution, ça ce sont les nouvelles méthodes de triche. S'il a scanné le sujet avant, discrètement, pendant la distribution, il peut ranger son téléphone portable dans le sac et à ce moment-là recevoir sur une montre connectée le corrigé de quelqu'un à l'extérieur. Celui qui a une petite anti-sèche, s'il est faible, il reste faible. Il monte peut-être d'un point ou deux, mais ça va pas loin. Celui qui se fait dicter la solution par quelqu'un à l'extérieur, il peut être extrêmement faible et faire une excellente copie. À ce moment-là, c'est embêtant parce que c'est quelqu'un d'incompétent qui risque d'avoir le diplôme.
Malgré les précautions prises ce jour-là, les étudiants sentent bien qu'il reste quand même un espace pour la triche.
Moi, j'ai été témoin, durant un galop d'essai, d'un étudiant à côté de moi qui trichait avec son téléphone portable et qui, pendant 3 heures d'examen, a fait son commentaire avec l'aide de l'application Messenger et il n'a pas été pris pendant 3 heures.
Et même s'il y a de nombreux surveillants dans les salles sont très grandes et c'est très compliqué de tout surveiller, quoi.
Les brouilleurs d'ondes qui permettraient de neutraliser les téléphones sont interdits par la loi dans les salles d'examen. Ils ne sont autorisés que dans les salles de spectacle et les établissements pénitentiaires. François Guénard regrette aussi les conditions dans lesquelles se tiennent les examens.
Tout est une question d'organisation. Si vous mettez des étudiants dans un amphi, bien serrés les uns contre les autres, avec les étudiants qui plongent sur la copie de celui qui est devant, même celui qui n'a pas envie de tricher va, sans le vouloir, voir la copie du voisin.
La porte est ouverte.
Les sanctions varient en fonction de la gravité. La commission académique de discipline peut interdire à l'étudiant de s'inscrire dans un établissement public du supérieur pendant 5 ans, mais la fraude à l'examen constitue un délit qui peut entraîner des sanctions pénales, allant jusqu'à 3 ans de prison ferme et 9 000 € d'amende. Un risque lourd de conséquences que les étudiants ne semblent pas prêts à courir.
C'est de prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose au final, alors que bon, il suffit de travailler un peu, de se motiver quelques semaines avant les partiels et c'est bon.
Et les sanctions sont telles à l'université qu'un étudiant qui se fait prendre et interdit de diplôme peut être interdit pendant 1 an, 2 ans, voire 5 ans, voir s'il y a des violences à vie, interdit à vie d'université, ou soit de l'université où il a commis les actes, soit de toute université. C'est pas comme au lycée où quand un étudiant se fait prendre, bon, il tape un peu sur les doigts, au pire il a 3 jours d'exclusion et ça s'arrête là.
Je pense pas que ce soit appliqué vraiment à chaque fois. Enfin, je connais des cas où qui ont été pris en train de tricher et qui justement n'ont pas eu d'interdiction. Enfin, ils ont eu 0 à l'examen, au parcel en l'occurrence, mais ils n'ont pas été interdits d'examen quoi, pendant 5 ans.
Mais la triche ne se cantonne pas aux épreuves elles-mêmes. Il y a ceux qui vont passer les examens à la place de quelqu'un d'autre, qui parviennent à pirater les sujets avant l'épreuve, ou qui, encore plus fort, réussissent à pirater les notes. François Guénard.
Le piratage des notes dans le serveur, c'est rare. C'est quelque chose de rare, et puis maintenant les universités font attention. En revanche, les gens qui, sur leur curriculum vitae, vont se mettre un diplôme qu'ils n'ont pas, ça semble être quelque chose de très répandu, parce que peu d'employeurs ont les moyens de vérifier si l'étudiant qui prétend avoir eu tel ou tel diplôme l'a effectivement.
Alors même que les universités élaborent des stratagèmes pour éviter la triche, un nouveau genre d'examen vient de faire son apparition, l'examen en ligne. Suite au blocage de facultés et centres d'examen, certains étudiants sont invités à plancher à la maison, ce qui fait craindre à certains de nouveaux risques de fraude.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Pour continuer à nous suivre, rendez-vous sur le site de RFI.fr ou sur notre page Facebook.